Moi, le psaume 23, si vous le voulez bien. Nous ouvrons à nouveau ce matin le psaume 23 pour poursuivre ensemble notre méditation, notre série de méditations intitulée « Il restaure mon âme », une série de messages qui est extrêmement important puisque, comme nous l'avons vu, la Bible est claire, dans cette vie, les blessures sont inévitables. Nous sommes tous à différents moments de nos vies, d'une façon ou d'une autre, atteints par des maux, M-A-U-X, et par des maux, M-O-T-S, qui nous ont fait terriblement souffrir et qui peuvent faire beaucoup de dégâts dans nos âmes et dans nos vies. Et puisque, on le sait, c'est écrit, ça ne nous plaît pas, on aimerait que ce soit différent, mais comme la Bible est claire, puisque les blessures sont inévitables, c'est indispensable de connaître, parce que tôt ou tard, on en a besoin de connaître les chemins de la restauration de l'âme. Il y a des vrais chemins, ceux qui sont spirituels, et il y a de faux chemins, ceux qui sont charnels, et on va avancer ensemble dans la méditation. On a vu, il y a deux semaines, ce premier point, je ne peux pas tout résumer, qui est sur le site internet, tous les messages sont en ligne. Nous avons vu la nécessité, nécessaire signifie indispensable aux besoins de la vie. La nécessité d'une restauration totale. Et puis, la semaine dernière, nous avons abordé ce point sur lequel je vais faire un tout petit résumé. Je veux juste insister pour les amis qui nous rejoignent et les frères et sœurs qui n'étaient pas là. Nous avons insisté sur le fait que Dieu seul, Dieu et Dieu seulement, peut restaurer notre âme. Lorsque David dit dans le psaume 23, on va le relire, « Il restaure mon âme », littéralement « shuv ». En hébreu, ce verbe « shuv » signifie littéralement « retourner »,« remettre sur pied »,« réparer ». David est en train de dire ici, parce que comme il est berger, il y a une scène qu'il a eu l'occasion de voir maintes et maintes fois, c'est qu'une brebis, lorsqu'elle a reçu un choc violent et qu'elle a été renversé, quand, excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça que ça se passe, la brebis est sur le dos et qu'elle a les quatre pattes en l'air, elle bêle, mais la brebis, ça fait partie des caractéristiques. Une brebis est dans l'incapacité totale de se remettre toute seule sur pied. Et David a vu en tant que berger cette scène maintes fois. Et quand on l'a vu, étant passé, on a vu ça la semaine dernière, on a regardé ensemble le survol de sa vie et on a regardé les grands chocs, les grandes épreuves de sa vie, mais aussi ses propres moments d'égarement. On a compris que la restauration était indispensable. On a compris que s'il est restauré, n'importe qui peut être restauré. Mais ici, David dit, il y a maintes fois dans ma vie où j'ai reçu des chocs violents. Ces chocs, pardonnez-moi, m'ont mis les quatre fers en l'air. Le seul qui a pu me remettre sur pied et me faire reprendre ma marche, c'était le bon berger. Et de bien comprendre que là, David est en train de dire ces situations. Un jour, vous savez, il s'est passé ça dans ma vie, ça m'a retourné. Ça aussi, on le dit. Ça m'a retourné. Quand elle m'a dit ça, quand il m'a fait ça, je me suis dit, comment il peut me faire ça? Ça m'a retourné. Et c'est à ça que David pense. Chouve. Et il dit, j'étais retourné. Mais le Seigneur m'a remis sur pied. À un autre moment, il va dire, j'étais cassé plus d'une fois. Mes enfants, Amnon, Absalom, Adonija, les uns après les autres, ils m'ont cassé, cassé, cassé. Mais Dieu m'a toujours réparé. On relit ensemble pour avancer le psaume 23, et puis ensuite on lira aussi le psaume 63 pour faire quelques parallèles et préciser la pensée. Ce matin, ce que je veux partager avec vous, le premier chemin de restauration, je veux parler ce matin avec vous de la table du bon berger. C'est le premier chemin de restauration. Nous lisons à nouveau le psaume 23, on le lit en entier, ce n'est pas bien long, cantique de David, l'Éternel et mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. » David est complètement retourné. Comme on dit aujourd'hui, il a pris cher, il a pris très cher. Et là, le Seigneur, ce qu'il fait, c'est qu'il va mettre devant lui une table. Ce n'est pas forcément ça que j'aurais pensé en priorité. Pourtant, le Seigneur dit, j'ai mis devant toi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. On va un peu plus loin, si vous voulez bien. On va regarder ensemble le psaume 63. Il y a des rapprochements, des parallèles à faire. On ne connaît pas le contexte exact du psaume 63. On sait simplement que David est dans le désert de Juda, c'est ce que dit le verset premier, parce qu'il est en fuite. Peut-être à l'époque où son beau-père Saül en voulait à sa vie, mais de façon plus probable, mais je ne vais pas vous faire une analyse exégétique ce matin, ce n'est pas le but. Très certainement, on devrait rapprocher le psaume 63 de l'épisode où David est en fuite devant Absalom, son fils. C'est certainement, plus probablement ça. Mais de toute façon, il est en fuite, on en veut à sa vie. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Aussi, je te contemple dans le sanctuaire. » Pour voir ta puissance et ta gloire, parce que ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée de mes gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Amen. Avant de nous attacher un petit peu plus à la question de la table, je voudrais juste, parce que tout est lié évidemment, c'est quand même fou que David, dans la période qu'il traverse, proclame avec assurance l'Éternel et mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'au moment où il parle, justement, il manque de tout. Il manque, puisqu'il est en fuite dans le désert, il manque de biens. Il manque de royaume. Un autre a pris la place. C'est un roi sans trône, un père sans famille, un homme dont la vie, sombre vallée de l'ombre de la mort, un homme en danger de mort qui ne sait même pas si demain, que sera demain. Et pourtant, son âme ne manque de rien. L'épreuve est terrible, l'adversité, comme les autres fois, est réelle. L'enjeu est réellement capital à ce moment-là. C'est une question de vie ou de mort. Et pourtant, alors que extérieurement, il manque de tout, intérieurement, il ne manque pas de paix, il ne manque pas de joie. Je te célébrerai, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Il ne manque pas de foi, il ne manque pas de confiance, il ne manque pas d'assurance. David, le soleil a-t-il tapé trop fort sur ta tête dans le désert? Es-tu devenu inconscient? Es-tu déconnecté de la réalité? Ou y a-t-il quelque chose que tu veux me faire comprendre que je n'ai toujours pas compris? Au sujet de ce que le berger est capable de faire dans mon âme en toute circonstance. Il faut bien considérer, bien aimé, les caractéristiques du berger avant de parler de sa table, parce que se mettre à la table de quelqu'un qu'on apprécie moyennement, je ne suis pas sûr qu'on y aille. Généralement, les gens qui vous invitent, vous savez qui vous invite, et quand vous y allez avec joie, puisque vous savez qui va vous accueillir. Et il faut que j'ai une bonne image du berger qui m'appelle à sa table. Et David est en train de dire, avec ce berger, tu ne manqueras jamais de rien. Il est en train de dire, le berger n'abandonne, c'est ce qu'il faut comprendre ici, c'est une caractéristique fondamentale du berger, le berger n'abandonne jamais ses brebis. Ça peut paraître bête de dire ça, mais nous sommes humains, nous sommes des brebis. Et la peur de l'abandon est bien réelle. Combien de fois, quand ça ne va pas, nous passons, David est dans le désert, nous passons les uns et les autres par toute forme de désert, quelle que soit la forme dans les circonstances, mais c'est une pression qui va être occasionnée sur l'âme. Le désert, c'est ce vide. Dans le désert, il y a quoi ? Du sable. Donc dans le désert, il n'y a rien. Il y a juste la mort au tournant. Quand on est dans le désert, frères et sœurs, notre espérance de vie, elle est de 3 jours, grand maximum. Vous ne passerez pas 3 jours sans eau. Votre espérance de vie dans le désert, elle est de 3 jours. Donc il y a quelque chose dans le désert spirituel, qui est extrêmement oppressant. Vous n'avez jamais eu ce sentiment, quand il y a des manques, quand il y a des vides, quand il y a du désert, vous n'avez jamais remarqué à quel point Dieu semble lointain ? Faites comme ça, faites-moi plaisir. Continuez à hocher la tête dans ce sens-là, faites-moi plaisir. À quel point Dieu peut sembler lointain dans mes déserts, même absent. Ésaïe 49, il y a tellement d'oppression que la peur de l'abandon peut être là chez beaucoup de brebis. Ça arrive régulièrement et ce n'est pas une honte, parce que dans les psaumes, les auteurs n'avaient pas peur de dire « Seigneur, ne m'abandonne pas, Éternel. Jusque à quand, Seigneur, me cacheras-tu ta face ?» Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face. Combien de fois dans leurs circonstances, des auteurs ont eu peur à un moment que Dieu puisse les abandonner. Et puis dans ces moments-là, l'ennemi de notre âme, lui, il est malin. Puis il est capable, il sait très bien nous souffler des mensonges et nous dire, tu sais, si ça ne va pas si bien que ça, c'est que Dieu t'a abandonné. Certainement que Dieu ne peut plus te pardonner. Dieu ne te secourra plus, etc., etc. Mais c'est un principe, le berger n'abandonne jamais, jamais, jamais sa brebis. Ésaïe chapitre 49. Si on disait « l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'a-t-il oublié ?» Mais Dieu dit « vous rendez compte de ce que vous dites ? Une mère serait-elle capable d'oublier l'enfant qu'elle allait ?» Mais même si une mère, quelle horreur, oubliait l'enfant qu'elle allait, Dieu dit, moi je ne t'oublierai jamais, parce que je t'ai gravé sur mes mains. Et ça c'est le sens de la croix. Et Jésus porte sur lui les stigmates dans le ciel actuellement, dans son corps glorifié. Dieu porte sur ses mains les stigmates éternels de son amour pour nous et du fait qu'il ne nous abandonnera jamais. C'est nous qui l'abandonnons. Mais lui, il ne nous abandonne pas. Un petit amen de temps en temps, ça peut faire du bien quand même. Pas à moi, mais à vous aussi. Psaume 27, David dit, même si mon père et ma mère venaient à m'abandonner, 27, chapitre 27, verset 10, psaume 27, 10, même si mon père et ma mère venaient à m'abandonner, l'Éternel me recueillera. Merci Seigneur. Lui, il est présent. Que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, que ta blessure, que ta douleur, que ta peine, que ton chagrin, que ton injustice semble occulter et même là comme effacer la présence de Dieu tellement la blessure est vive, la douleur est vive, que lui, tu ne le sentes pas, mais que tu sentes le Seigneur ou que tu ne le sentes pas, il est là parce que c'est sa parole qui le dit. Et Paul dit, nous marchons par la foi en fonction de ce que la parole dit, et nous ne marchons pas par la vue. Nous ne marchons pas en fonction des ressentis, des émotions. Tout ça, ça fait partie des états d'âme. C'est terriblement trompeur. Nous marchons par la foi. C'est toi, Seigneur, je le sais, qui es mon berger. Tu ne m'abandonnes pas et c'est toi qui vas prendre soin. En d'autres termes, je culpabilise personne. Je suis une brebis comme tous. J'ai fait mes expériences comme tout le monde. Dieu a veillé à ce que je fasse mes expériences avant de prêcher, croyez-moi. Le berger, il est toujours présent. C'est toi qui n'es pas là. Mais lui, il est là. C'est toi qui n'es pas là. Il t'aime, hein ? T'en veux pas, hein ? Mais c'est toi qui n'es pas là. C'est toi qui n'es pas là où tu dois être. C'est toi qui n'es pas là où il t'attend. Toi, lui, il est là, pardon, mais toi, tu n'es pas là. Le berger, lui, c'est sa nature. Il est présent, il prend soin, c'est sa nature de pourvoir. Bien sûr, il y a encore là, il y a un décalage entre notre priorité et la sienne, entre notre pensée et la sienne. Quand on pense, il prend soin, je ne manquerai de rien, et bien là, on est déjà dans le circonstanciel et on pense à tout ce que Dieu doit faire encore pour nous, pour que les choses se règlent et que nous allions mieux. Mais la priorité de Dieu, ce n'est pas le circonstanciel, c'est le spirituel, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Et Dieu me dit, c'est là, il me fait reposer, reposer, dans reposer, bien aimé, il y a repos. Dans paisible, les eaux paisibles, il y a paix. La priorité de Dieu dans ton âme, c'est le repos. C'est la paix miraculeuse qui surpasse toute intelligence. Pourvoir aux besoins prioritaires de l'âme, la tempête souffle à l'extérieur, ça c'est du circonstanciel, mais il y a le calme à l'intérieur. Et ça, c'est la véritable paix. La paix, si vous regardez les dictionnaires humains, la définition des hommes va être très simple. Paix, deux points, absence de guerre. Donc, si j'ai pas de difficultés, si j'ai pas de problème, si je n'ai pas d'ennemis, s'il n'y a pas de guerre, s'il n'y a pas de peu importe, s'il ne se passe rien, je suis en paix. Ça, c'est la définition humaine. La définition de Dieu est totalement différente parce que la paix n'est pas un sentiment. La paix n'est pas une impression. La paix n'est pas une émotion. La paix, c'est un état. Je ne fais pas le calme. Je suis calme. La paix, c'est un état intérieur de tranquillité, de paix, de sérénité, de repos, qui est plus fort que les circonstances. C'est Jésus dans la barque. Les vagues arrivent, la barque est secouée. Les flots, la barque est malmenée. Les flots viennent, une vague puis une autre. Et Jésus est dans la tempête. Il est à la poupe et il se repose. Ça, c'est la meilleure image de ce qu'est la paix. La paix, ce n'est pas un petit chemin dans une petite verdure, un petit chemin où on a bien tondu, il n'y a pas un seul petit caillou pour te faire mal aux pieds, et puis il y a un grand ciel bleu, un peu de soleil, mais un petit nuage parce qu'il ne faut pas que ça te chauffe quand même. Hein. Et puis une petite brise légère, mais pas trop de vent, parce que le vent, ça peut fatiguer, je peux prendre froid. Hein. Alors pas trop de soleil, pas trop de nuages, pas trop de vent, tout bien réglé nickel, une petite brise, et au bout du chemin, il y a quoi? Eh bien, il y a un petit hamac pour que je me repose en attendant que Jésus vienne me chercher. Eh ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. La paix, c'est une immense tempête qui se déchaîne sur un rocher. Et au creux du rocher, il y a toi, il y a moi, en sécurité, dans le Christ. Ça, c'est la vraie paix dans la pensée de Dieu. C'est ça, la paix. Jésus est le prince de la paix. Et cette paix, elle est miraculeuse. Les eaux paisibles, il me fait reposer. Comment pouvons-nous avoir en nous le prince de la paix et être encore inquiet? Combien d'enfants de Dieu, combien de bien-aimés, stressés, agités, tourmentés, angoissés, soucieux. Dieu me dit, j'ai mieux pour toi, j'ai mieux pour toi. Mon âme a besoin d'être nourrie et désaltéré par la présence du berger. Il veut prendre soin de mon âme avant de prendre soin de mes circonstances. Et il y a ces verts pâturages. Il me parle, il me conduit, il me fait reposer, repos. Des verts pâturages, c'est la nourriture de mon âme. Des verts pâturages et de l'eau fraîche, c'est le restaurant 5 étoiles de la brebis. C'est le top du top. Verts pâturages et eau fraîche, et la brebis, elle est encore plus heureuse que les jeunes quand vous les emmenez chez Burger King. Les verres de pâturage et l'eau fraîche, ah ça c'est le 5 étoiles de la brebis, c'est le top du top. Et c'est ce dont j'ai besoin. Le Seigneur sait que j'ai besoin de ça. David est là dans le désert de Juda, psaume 63. On l'a lu, le verset 6. Mon âme, il est en fuite. Et il dit, mon âme va être rassasiée, nourrie. C'est les verts pâturages du berger. Dans mon être intérieur, mon âme va être nourrie de mets succulents. Jésus dit, en plus d'être le prince de la paix, ce bon berger est aussi le pain de vie. C'est lui qui rassasie mon âme. Ce ne sont pas les circonstances favorables ou défavorables. Ce qui rassasie mon âme, c'est lui. C'est sa présence. Mon âme, psaume 63 encore, mon âme est rassasiée. Mon âme a soif, j'ai besoin d'eau. Mon âme a soif, même mon corps soupire après toi, Seigneur, dans cette terre aride, desséchée, sans eau. La véritable sécheresse, elle n'est pas dans les circonstances. La véritable sécheresse, elle est dans l'âme de ton serviteur. Seigneur, mon âme a soif. Il n'a pas dit j'ai soif de vengeance. J'ai pas soif de régler mes comptes. J'ai pas soif qu'on reconnaisse que j'avais raison. Il dit j'ai soif de toi. Et bien souvent, bien aimé, il y a tellement de situations dans nos vies, excusez-moi, où on s'est planté, on est arrivé au bout de nous-mêmes. Parce que qu'est-ce que voulait le Seigneur ? Le Seigneur voulait déclencher en nous une soif que nous n'avions pas, une soif désespérée de sa présence. Et dans des moments difficiles, le Seigneur, il a utilisé les circonstances, mais il a affamé notre âme. Il a asséché notre âme, de sorte que l'on puisse avoir une faim et une soif de lui. Oui, je sais, c'est fou, c'est la pédagogie de Dieu, mais la main qui veut te nourrir, c'est la main qui t'a affamé. La main qui va te désaltérer, c'est la même main qui t'a assoiffé. La main qui va guérir tes blessures, c'est la même main qui a permis que d'autres te blessent. Mon âme a soif de toi. J'ai pas soif de régler mes comptes. J'ai pas soif de changer d'air. De toute façon, je vous l'ai dit, partez à l'extrémité de la terre. Tout ce qui n'est pas réglé dans l'âme, vous le savez, bien-aimé, on l'emmène partout avec nous. Parce que c'est là-dedans. Mon âme a soif de toi. Il est le bon berger, celui qui n'abandonne jamais sa brebis. Il est le berger qui prend soin en me nourrissant. En tant que pain, nourriture essentielle, le pain parce que c'est l'essentiel de ma vie. Il est la source qui me désaltère, il amène en moi une dimension de repos et de paix. Et tout ça, frères et sœurs, vous le savez, vous n'avez pas entendu qu'il y a un énième pasteur qui vienne vous le dire. Tout ça, on ne le trouve que dans la présence de Dieu. On ne le trouve que à sa table, parce que ce sont des mets qui sont spirituels. Ce qu'il est nécessaire, c'est de trouver, c'est le premier chemin de restauration, c'est de trouver ou de retrouver la communion que tu n'avais pas ou que peut-être tu as laissé s'étioler, que tu as peut-être abandonné parce que à force tu as pris des coups et puis quand on prend des coups, notre première tendance en tant que brebis, c'est d'aller nous recroqueviller quelque part. Même si on est présent, notre âme est partie se recroqueviller quelque part. Combien de bien-aimés? Moi, le premier, je l'ai expérimenté. Combien de bien-aimés m'ont dit souvent, je les ai compris parce que je l'ai vécu. Ah, tu sais, Stéphane, j'ai du mal à prier. Hein. Ben oui, sans blague. Bien sûr que tu as du mal à prier, je te comprends. Je ne veux pas te juger. Tu sais, j'ai du mal à prier en ce moment. Tu sais, j'ai vraiment du mal à ouvrir la parole. J'ai vraiment du mal à... Je ne sens plus le contact. Puis quand j'ouvre la Bible, j'ai tellement du mal à puiser les réponses, j'ai tellement du mal à en sortir un message, quelque chose de clair, de puissant pour moi. C'est tellement... Oui, je sais. Je sais, c'est dur. Je sais, t'as pas envie. Je sais, t'as envie de fuir. Je sais, ton âme, ça fait partie, c'est normal. Ça fait partie des mécanismes. De la psychologie de l'âme, ça fait partie des mécanismes de l'âme. Mon âme, elle a envie de s'enfuir. Ah Seigneur, si je prenais les ailes de l'aurore et que j'aille aux extrémités de la terre. De toute façon, je t'y trouverai encore, Seigneur. Mon âme, elle a envie de fuir. Mon âme, elle a envie de s'évader dans une multitude d'activités. Je vais en faire beaucoup, 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 parce que plus je vais en faire, plus je vais m'étourdir, plus je vais faire en sorte que ça me distrait, que ça m'accapare. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je fuis la solitude, je ne peux pas rester seul à la maison. Il faut que je fuis, il faut absolument que, parce qu'il faut absolument qu'on me fasse penser à autre chose. Mais de toute façon, tu seras toujours rattrapé par ta blessure. Je vous l'ai dit la semaine dernière, vos amis ne vous restaureront pas. Le temps ne vous restaurera pas. Vous ne vous restaurerez pas vous-même. L'activisme ne vous restaurera pas non plus. Que tu en aies envie ou pas envie, le Seigneur t'en veut même pas de pas avoir envie parce qu'il le comprend. J'ai eu des moments de découragement terribles dans le ministère. Dans ma propre vie de chrétien, parce qu'avant d'être pasteur, je suis disciple, comme vous. Et des moments de découragement, en dehors du ministère ou dans le ministère, des moments où je n'ai pas eu envie, des moments où c'était dur, des moments où j'avais envie de tout lâcher, des moments où j'ai pris ma Bible, je dis, c'est dur, je n'ai pas envie, je suis fatigué, je n'ai pas envie. Le Seigneur, il ne m'a pas foudroyé, c'est un berger, il m'aime. Il m'a dit, t'en as pas envie, mais tu sais ce dont tu as besoin et tu sais au fond de toi que t'en as besoin. Alors ne te comporte pas comme un enfant. Mets-toi à table. Et quand tu vas commencer à chercher, ça va être dur. Quand tu vas commencer à creuser, quand tu vas, au fur et à mesure les choses, plus tu vas creuser, plus les ressources, plus l'eau va jaillir et la nourriture va arriver. On ne sait plus prendre le temps avec Dieu, bien-aimé. On ne sait plus, ce n'est pas un reproche, on ne sait plus prendre le temps, on ne sait plus se mettre à table. On est toujours en train de manger un petit truc sur le pouce. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu manges pas là? Non, c'est bon, j'ai mangé ça, j'ai grignoté ça, c'est bon. Je m'en vais. Mais assieds-toi, mange. Après, tu vas te plaindre que ça te tourne. Et bien souvent, frères et sœurs, on est vraiment des brebis, hein, le Seigneur ne s'est pas trompé, hein. On est comme des enfants. Vous avez vu avec vos enfants? À table! J'ai pas faim! J'ai pas envie! C'est pas bon! J'aime pas les légumes! Je veux toujours du Nutella! Non, parce que tu vas avoir du diabète quand tu auras 25 ans! Ah, non. Combien de fois on a eu du mal à prendre nos enfants, à les mettre à table et à leur apporter une nourriture équilibrée. Je ne vous demande pas si vous avez lu votre feuillet de calendrier ce matin ou cette semaine, quoique j'ai rien contre les feuillets de calendrier, hein, c'est très bien, il y a des bonnes choses. Je vous demande si vous avez eu de la nourriture solide et que vous avez eu des moments à table en tête à tête, en face à face avec le bon berger qui avait pour vous non pas la nourriture dont vous aviez envie. La nourriture dont vous avez envie, elle est sur Internet. Vous allez sur YouTube, vous allez trouver tout ce dont vous avez envie, mais tout ce qu'il ne vous faut pas. Le problème d'une majorité de milliers de chrétiens aujourd'hui, leur communion avec Dieu, c'est ce que le pasteur dit et ce que Internet dit. À sa table, le berger a pour vous, non pas la nourriture dont vous avez envie, il a la nourriture dont vous avez besoin. Et c'est pour ça que ce n'est pas toujours évident de prier, ce n'est pas toujours évident d'aller puiser dans la parole. Mon frère, ma sœur, mes bien-aimés, ne laissez, peu importe votre situation, ne laissez jamais votre âme prendre les décisions. Votre âme, c'est vous. Ne laissez jamais votre âme prendre le contrôle des opérations, la direction des opérations. Ne laissez jamais votre âme. Votre âme ne connaît pas les chemins des verts pâturages où vous allez reposer, ne connaît pas le chemin des eaux paisibles, ignore totalement les sentiers de la justice, ne sait pas se faire à manger convenablement. Tu prends ton âme, pardon, t'en as envie, t'en as pas envie, de toute façon tu as encore la liberté de choix. Tu es blessé, mais tu n'es pas handicapé, pardonnez-moi. Donc tu peux encore prendre ton âme et tu dis, mon âme, mets-toi à table avec Dieu. Mon âme, vous prenez votre âme et vous amenez votre âme à son berger, à son créateur, et vous vous mettez à table avec Dieu. Et je crois que l'un des grands cris de Dieu à son peuple, à son église de façon générale, alors qu'aujourd'hui dans les mouvements, on entend de tout et de partout. Quelqu'un me disait encore cette semaine, quelqu'un me disait comment on peut avoir tous la même Bible et pas avoir le même résultat, pas la même vie. Comment on peut avoir la même Bible et avoir autant d'interprétations différentes? Je lui dis, t'inquiète pas, un jour je vous expliquerai les principes d'exégèse et d'herméneutique pour que vous vous plantiez jamais. D'accord, on le fera, mais comment c'est possible? Parce qu'en réalité, ça fait bien longtemps que la table du berger, on est partout, mais on n'est pas à table avec le berger. Pour manger la nourriture qu'il nous a préparée, et les yeux dans ce temps de communion et d'intimité. Peu importe ce que tu vis, ce que tu traverses, bien-aimé, ton besoin numéro un, je vais même te dire ton seul besoin, c'est de te mettre à table avec ton berger. C'est ça. Parce que la table, c'est un symbole de communion. La table est un symbole, évidemment, ça, je vous l'ai dit, ma paix, si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il boive, oui, c'est la même chose. On est d'accord, les vers pâturages, l'eau, l'âme nourrie est désaltérée. Tu dresses devant moi une table. Le sens premier de la table, bien sûr, en plus de manger, quoiqu'à table, on ne fait pas que manger, je vous montrerai ce qui se passe aussi à une table. Mais le sens premier, évidemment, c'est la restauration au sens de se nourrir, manger. Et puis, c'est un temps de communion. Dans l'Apocalypse, le Seigneur dit à cette église, malheureusement, la Odyssée, qui, à force d'avoir accumulé tellement d'égarements, de négligences, de mauvaises doctrines, à force d'être tellement lointaine dans son cœur avec son berger, à la Odyssée, le Seigneur finit un jour par se retrouver à la porte de l'église, comble du comble, c'est lui le propriétaire de l'église, il se retrouve à la porte. Mais le Seigneur, dans sa grâce, il continue de frapper, il ne les maudit pas. Il dit, si tu ne te repens pas, par contre, hein, mais pour l'instant, je suis encore là. Tu m'as mis à la porte de ton cœur, mais je frappe. Je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas. Et le Seigneur, à l'église de la Odyssée, c'est la septième des sept églises, il frappe à la porte du cœur. Il dit, si tu me laisses entrer, je souperai avec toi. Parce que c'est le symbole, le souper, le repas à la table, c'est le symbole d'une communion qui est établie, ou alors qui a été rétablie lorsque quelque chose a été cassé. Tu dresses devant moi une table. Pourquoi, Seigneur? Parce que le véritable problème, la véritable urgence, ce n'est pas tes adversaires. La véritable urgence, ce ne sont pas tes problèmes. La véritable urgence, c'est ton cœur. La véritable urgence, c'est toi et Dieu. Il faut que ça se passe maintenant, Dieu et toi, toi et Dieu. Et c'est ça le sens premier de la table. Et ce que je vous ai mis, Apocalypse 3.20, oui, en plus du repas, il y a la proximité, le partage. Quand David dit au psaume 63, mon âme a soif de toi. C'est de toi dont j'ai besoin, Seigneur. Ton plus grand besoin aujourd'hui, mon bien-aimé. Peu importe ce qui t'est arrivé, peu importe ce qui te manque. Ton premier besoin, c'est lui. La table, elle est mise. La table est mise depuis longtemps. Midi est largement passé. Ça fait longtemps qu'il est 13h, 14h, 15h, 16h, que tu es fatigué, que tu n'en peux plus. Mais le berger est toujours là, il est toujours assis. Il t'invite toujours, il t'attend toujours. Et le Seigneur, il te dit, est-ce qu'on va les avoir, ces temps de communion, toi et moi? Ou est-ce que tu vas encore manger un verset sur le pouce? Est-ce que tu vas encore avoir un petit casse-croûte, une petite tartine de chocolat sur le pouce? Ou est-ce que toi et moi, on va vraiment se mettre à table? Parce que c'est là que Dieu m'attend. Parce que c'est mon besoin. La priorité, ce n'est pas tes adversaires. La priorité, ce n'est pas de savoir ce que tu vas faire demain. Même si Dieu te disait, demain, ton avenir, c'est ça. Demain, c'est ça. Demain, on va faire comme si, on va faire... De toute façon, quoi que Dieu te montre, quoi qu'il vous montre, Église, de toute façon, tant qu'on n'est pas passé à la table du berger, de toute façon, l'avenir, on passera à côté. Hein. Déjà, ça nous ferait peur. On n'a pas la force. Il faut manger avant d'aller. Il faut manger avant de marcher. Avant d'aller, le Seigneur, dans sa parole, ce qui est extraordinaire, c'est que le premier appel qu'il a fait résonner à ses disciples, avant de leur dire « Va, allez », la première chose qu'il leur a dit « Viens, reste à mes pieds et vous ne vous éloignerez pas de Jérusalem tant que... Viens, et après va. » Des milliers de gens dans les églises de France et du monde, ils vont. On se demande quand ils sont venus et on attend encore qu'ils viennent. Et le Seigneur me dit, non, viens, viens à ma table, comment tu vas tenir si tu ne manges pas? Élie, il a pris un choc terrible par Jézabel. Je vous en parlerai bientôt, je prêcherai un message spécifique sur Élie dans sa caverne. Élie a pris un choc terrible. Il n'a plus la force de marcher. Il est retourné intérieurement. Et puis il a été s'enfermer dans cette caverne, mais la plus grosse prison n'est pas la caverne dans laquelle il s'est enfermé, la plus grosse prison, c'est celle de son âme. Et la première chose que Dieu lui dit, Élie, mange. Le chemin est trop long pour toi. Et il faut que Élie se nourrisse avant de pouvoir reprendre son chemin, entre autres, mais on en parlera plus tard. La priorité absolue, c'est Dieu et toi, c'est toi et Dieu. Vous voyez ce qui est super dans le caractère d'un homme comme David, c'est que quelles que soient les situations, David restait toujours lucide, très lucide, sur ses véritables besoins, sur ce qui était vraiment urgent, ce qui était vraiment important. Verset 2, « Ô Dieu, tu es mon Dieu. » Ce n'est pas parce qu'on m'a blessé, que je... Dieu reste toujours mon Dieu. J'espère que c'est clair ça aussi. Tu es toujours mon Dieu. Mon âme a soif de toi. Et ça, c'est la lucidité d'un homme qui est toujours conscient de ses véritables besoins. Apprendre à me nourrir de lui, à sa table, c'est là que je ne manquerai de rien. David, bien évidemment, ne parle pas, vous l'avez compris, il ne parle pas de matériel seulement. Bien sûr que David a la foi. Bien sûr qu'il a de l'assurance, il a de la confiance. Bien sûr, c'est écrit que mon Dieu sera évidemment lui qui a su mesurer la longueur de l'épreuve. Il a mesuré l'intensité de l'épreuve. Bien sûr qu'à toute épreuve, il a prévu le moyen d'en sortir. L'issue est déjà prête. Bien sûr que c'est prêt. David le sait, mais il ne parle pas de matériel seulement. Il parle de ce qu'il a à l'intérieur. Spirituellement, ne le manque pas. Et peut-être ce matin... Mais tu manques. Tu ne manques peut-être pas de vêtements. Combien de gens, combien de chrétiens ne manquent pas de vêtements, ne manquent pas d'argent. Combien ne manquent pas de logement. Vous ne manquez pas de biens matériels, vous ne manquez pas de nourriture matérielle, vous ne manquez pas de meubles, vous ne manquez pas de loisirs, vous ne manquez pas de voitures, vous ne manquez de... Mais combien de manques de joie, combien de manques d'assurance, combien de manques de paix. Manque d'amour. Combien je peux très vite manquer de grâce, de patience, de bonté, de douceur, d'humilité. Combien très vite je peux manquer de patience. Combien très vite je peux manquer de discernement. Le discernement, c'est à la table du berger que je le reçois. C'est dans la communion du Saint-Esprit. Combien je peux manquer de sagesse. Je me suis mis dans des situations... Ah, le diable, il a le dos large, mais il faut dire que quand même régulièrement, on lui fait bien son boulot, excusez-moi. Et on peut manquer tellement, et c'est de choses spirituelles que David parle, avant tout en disant, oui, il y a mes lacunes, il y a mes faiblesses, il y a mes échecs, ça a eu aussi une incidence sur ma communion avec Dieu, mais j'ai besoin de retrouver cette table, parce que c'est là que mon âme va pouvoir être nourrie convenablement, comme il faut. La priorité des priorités, je vais terminer avec ça, la priorité des priorités, c'est la présence de Dieu dans ton cœur. C'est sa force, c'est que ton âme reste. C'est que ton âme, dans sa présence, reçoive la force, la guérison et les ressources qui en découlent. Que ton âme soit bien nourrie, bien fortifiée, bien irriguée, bien désaltérée. Et tout ça, ça ne peut pas tomber tout cuit du ciel. Je ne peux pas vous imposer les mains. David dit bien, mon âme a soif de toi. Je te cherche. Je cherche ton cœur, je cherche ta nature, je cherche tes attributs, ta pensée, ta vie, ta force, ta nourriture, ta voix, ta volonté, ta direction. Seigneur, c'est toi que je cherche. Et bien sûr, j'en suis le premier conscient. Chercher Dieu, ça demande de s'organiser. Ça demande de faire du choix, des choix. Ça demande de faire du tri dans les priorités. Parce que chercher Dieu, on ne va pas se mentir, ça prend du temps. Mais vous savez ce qui est super ? Pourquoi le Seigneur, il fait ça ? Pourquoi parfois le Seigneur, il ne se révèle pas tout de suite ? Il permet que ce soit dur, que je sois obligé de creuser, que sa parole ne me dise rien, que je n'ai pas forcément plus envie de prier, et qu'après avoir prié, je ne ressente rien, et que je sois obligé de continuer, de persévérer, etc. Vous savez pourquoi ? Ben parce que pendant ce temps-là, tu es à ses pieds. Et pendant, mais pas vous, hein, mais moi. Le Seigneur, il me dit, Steph, parce que le Seigneur, il m'appelle Steph. Quand on est assez proche, il se permet. Il dit, Steph, pendant que tu es à mes pieds, tu n'es pas ailleurs. Pendant que tu es à mes pieds, tu ne fais pas de bêtises. Pendant que tu me cherches, tu ne cherches plus tes intérêts. Pendant que tu me cherches, tu ne cherches pas à te justifier. T'as plus le temps, t'es trop occupé avec moi. Pendant que tu me cherches, tu ne cherches pas à avoir le dernier mot. Ta femme, elle veut le dernier mot. Mon frère, laisse-lui le dernier mot. Ton mari veut le dernier mot. Ma sœur, laisse-lui le dernier mot. La Bible est claire, faute de bois, le feu s'éteint. Pendant que je suis à tes pieds, Seigneur, quand je te cherche, je ne suis pas en train de chercher des solutions. Je ne suis pas en train d'échafauder un plan bizarre qui va encore me mettre un peu plus dans l'impasse. Pendant que je te cherche, je ne suis pas en train de chercher des réponses que je n'aurai nulle part si ce n'est à tes pieds. Donc le Seigneur permet, il me dit, cherche ma face, continue. Il faut que tu me cherches moi pour qui je suis, pas pour ce que je fais ou donne. Cherche-moi pour qui je suis en tant que berger. Cherche-moi par faim et soif de ma personne, de qui je suis. C'est lui ton premier besoin. C'est le premier chemin de restauration. C'est la table. Et puis, il y a d'autres choses que l'on sera amené à voir dans les autres dimanches sur ce merveilleux texte, mais puisqu'on parle du berger et de sa présence, forcément, tu oins d'huile ma tête fait une allusion à la présence de Dieu, évidemment, puisque l'huile, on le sait, comme le vent, le feu, l'eau, l'huile est un symbole de l'Esprit dans la parole. L'huile est un symbole du Saint-Esprit qui aujourd'hui, en plus, merveilleux Seigneur, vit en nous, il n'est pas sur nous, mais il vit en nous, c'est nous, notre privilège à nous, chrétiens nés de nouveau, dans la nouvelle alliance. L'huile fait référence à la présence de l'Esprit de Dieu dans mon cœur. C'est avec de l'huile que l'on cicatrise les blessures. C'est avec de l'huile que l'on apaise les douleurs. C'est avec de l'huile que l'on panse les plaies. Et en réalité, l'huile fait référence à l'action de guérison du Saint-Esprit dans les cœurs. La semaine dernière, je vous ai cité le psaume 19, les PowerPoints sont disponibles si vous voulez. Le psaume 19 qui dit « La parole de Dieu est parfaite, elle restaure, chouve, pareil, elle restaure l'âme. » Et là, on voit que le rôle de la parole et le rôle de l'esprit vont être intimement liés dans la guérison de mon être intérieur. Il faut absolument laisser couler et prendre le temps pour que l'esprit de Dieu puisse faire son œuvre en moi, par la parole et par le Saint-Esprit. Cette huile, c'est l'huile dont les sacrificateurs étaient oints. Et oint ces sacrificateurs, c'était un symbole d'onction, c'était un symbole de bénédiction, c'était un symbole d'approbation. Quand tu es à la table du berger, le Seigneur, il t'approuve. Le Seigneur, il te bénit. L'huile est un symbole de guérison et c'est un symbole de bénédiction. Je ne sais pas où, quand et comment chercher une bénédiction autrement qu'à la table du bon berger, autrement que dans la communion, dans l'intimité du Saint-Esprit et de sa parole. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et là, quand il est arrivé à cela, « Ah, merci Seigneur, ma coupe déborde. » Enfin, je ne suis plus une chrétienne débordée, je suis une chrétienne débordante. Je ne suis plus un pasteur fatigant, même si des fois j'ai l'impression que je vous prêche un peu longtemps, mais vous me pardonnez tout. Je suis un pasteur non plus fatigué, mais je suis un pasteur débordant. Dieu veut que tu sois débordant, pas débordé. Débordant de joie, débordant d'amour, déborde de son cœur. Débordant de son huile, débordant de son pardon. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous soyons remplis seulement. Quand tu es rempli de l'Esprit, quand tu es rempli de sa pensée et de sa parole, c'est pour toi. C'est le contenant qui est au bénéfice de ce qu'il prend à l'intérieur. Je suis au bénéfice, je suis rempli, c'est pour moi. Merci Seigneur. Mais quand tu es débordant, qui est au bénéfice de ce débordement ? Les autres. Et les autres sont au bénéfice de ta joie, de ta paix, de ton amour, de ta grâce, etc. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et dans ces conditions, je comprends que David est terminé en disant, je termine vraiment, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et j'habiterai dans la maison. Habiter littéralement, Yachab. Comme dans le psaume 22, l'Éternel siège, il habite, il demeure, Yachab, au milieu des louanges de son peuple. Ici, dans le psaume 23, j'habiterai, Yachab, ça signifie s'installer. Je vais m'installer dans la présence de Dieu, c'est ça que ça veut dire. Et parce que je suis installé dans la présence de Dieu, j'ai l'assurance que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Mon bien-aimé, c'est de lui dont tu as besoin. Un petit garçon à l'école du dimanche, oh pardon, on ne dit plus école du dimanche, hein. Au GIB, mais on se comprend, c'est entre nous. Hein. Un petit garçon un dimanche avec sa monitrice, ça va comme ça. La monitrice leur dit, vous vous souvenez de ce qu'on a appris la semaine dernière ? Il y en a un qui dit, oui, le psaume 23. Puis la monitrice lui dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en souvient et qui veut nous le réciter ? Puis il y en a un qui s'emballe un petit peu, qui dit, oui, moi, je veux le réciter. Elle lui dit, ben vas-y, dis-nous le psaume 23. Et là, le petit garçon, il dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Et la monitrice, elle lui dit, l'Éternel est mon berger. C'est bien, t'as bien commencé, continue. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Ah, et puis je ne veux rien d'autre. Il paraît que la vérité sort de la bouche des enfants. Crois-moi, quand tu seras à la table du berger, tu ne voudras plus jamais goûter autre chose. Amen. On se recueille. Les musiciens peuvent s'approcher.